La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, merci à vous de venir à la parole des contes de FM+. Alors nous avions envisagé les contes autour des chevaux, puis nous avions un peu quitté les chevaux pour aller voir les ânes. Et j'ai enfin retrouvé le livre que je cherchais depuis si longtemps sur un cheval. Donc nous allons retourner sur les chevaux et un cheval magique chinois. Le cheval magique de Han Gan, d'un joli album de Chen Jianghong. Et Han Gan a réellement existé. Voyez plutôt. Quand il était petit, Han Gan adorait dessiner. Mais sa famille était si pauvre qu'il ne pouvait s'acheter ni pinceau ni papier. Et afin de gagner un peu d'argent pour aider ses parents, il travaillait chez l'aubergiste. Il livrait des repas chez les clients. Donc il allait à l'auberge. À l'auberge, quelqu'un lui remettait un panier dans lequel il y avait des bols, les plats, les baguettes. Et il courait chez les clients pour livrer les repas. Et un jour parmi les jours, Han Gan livra un repas chez le célèbre peintre Wang Wei. Il déposa les plats en cuisine et attendit, non loin de là, sur le pas de la porte, les bols et les baguettes sales pour les rapporter à l'auberge. Et en attendant, il vit de beaux chevaux et il se mit à les dessiner sur le sable. Intrigué, le grand peintre Wang Wei s'approcha et regarda l'enfant. Et il dit à Han Gan de revenir le voir le lendemain. Le lendemain, Wang Wei, le grand peintre, avait préparé pour le petit Han Gan des papiers, des couleurs, des pinceaux et même un peu d'argent. Et il lui dit « Ceci est pour toi, pour que tu puisses peindre autant que tu voudras. » Le cœur de Han Gan se gonfla de reconnaissance. Han Gan dessinait de l'aube au coucher du soleil et il aimait par-dessus tout dessiner des chevaux. Et toujours il voulait qu'ils aient l'air le plus vivant possible. Il cherchait à peindre l'énergie du cheval. Il était si doué que quelques années plus tard, l'empereur lui-même, qui avait beaucoup entendu parler de Han Gan, le fit venir au palais afin qu'il entre à l'Académie des peintres officiels. À l'académie, Han Gan refusait de s'exercer en imitant les œuvres des anciens, comme le lui demandait son professeur. Il ne voulait peindre que des chevaux, et des chevaux d'après nature. Et bizarrement, il les peignait toujours attachés. Aussi, un jour, ses camarades lui demandèrent « Mais pourquoi représentes-tu toujours tes chevaux attachés ?» Et Han Gan répondit « Parce que mes chevaux sont si vivants que s'ils n'étaient pas attachés, ils pourraient sortir du papier. » Alors on commença à raconter de drôles de choses sur les chevaux de Rangan. Et quelque temps plus tard, au plus profond d'une nuit silencieuse, alors que Rangan travaillait chez lui, un grand guerrier vint le voir. « Cher peintre, ma visite doit rester secrète. L'ennemi est à nos portes. Je dois partir, me battre demain. J'ai ouï dire que tes chevaux étaient plus vrais que nature. On raconte même que ton pinceau magique peut les rendre vivants. Pourrais-tu faire apparaître pour moi le plus fougueux et le plus vaillant des coursiers ? » Rangan, intrigué par l'allure assez terrifiante du guerrier, dit « Je peux essayer ?» Il se mit à dessiner avec toute son âme un cheval. Et il ne sortit pas du papier. Alors il prit le papier, le frappa en boule, le jeta par terre, recommença avec une autre feuille de riz, puis une autre feuille de riz, puis une autre feuille de riz. Et le guerrier lui disait « Continue, il me le faut, ce cheval !»« Je suis désolé, » dit le peintre Rangan, « ce dessin non plus ne vaut rien. » Il ramassa toutes les boulettes et il les jeta dans le feu. Au même instant, un fabuleux coursier jaillit d'entre les flammes. Le guerrier sauta sur le cheval et disparut avec lui dans la nuit. Ce cheval-là n'avait besoin ni d'eau, ni de fourrage, ni de repos. Dans son galop, ses sabots touchaient à peine terre. Le guerrier, lui, ne s'était jamais senti aussi puissant. Il n'était pas seulement puissant, il était invincible. Au plus fort du combat, aucune flèche, aucune lance ne l'atteignait jamais, ni lui, ni sa monture. Le guerrier commença à remporter de grandes victoires. Mais ces victoires ne lui suffisaient pas. Il voulait se battre encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'ait plus un seul ennemi vivant. Et il ne se rendait pas compte que son cheval, à force de voir tout ce sang qui coulait de partout, devenait de plus en plus triste. Il regardait les têtes coupées, les jambes arrachées, les chevaux morts ou blessés. Et le cheval se mit à pleurer. Se débarrassant du guerrier au milieu du champ de bataille, le cheval, encore tout couvert de sang, des hommes et des chevaux, s'élança au grand galop. Rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Le guerrier chercha désespérément le cheval. Il le chercha pendant 36 jours et 36 nuits. Et un matin d'automne, il arriva devant la maison du grand peintre Rangan. « Ce cheval que tu m'avais offert, » dit le guerrier à Rangan, « il a disparu. Sais-tu où il est ?»« Oh oui, je le sais. Oui, oui, oui. Vois-tu ce tableau ? C'était une grande fresque. Là, je n'avais peint que 4 chevaux. Et un matin, quand je me suis réveillée, il y en avait un 5e. C'est là que ce cheval vit à présent, dans ce tableau. Au milieu des 4 autres, les 5 éléments, au milieu de ses amis. Et voici donc comment se termine l'histoire du cheval magique du grand peintre Rangan qui a réellement existé, il y a plus de 1200 ans. Et on retrouve des thèmes très fréquents chez les Chinois, où le réel et l'imaginaire, où la peinture prend vie. Hein, les surréalistes ont rien inventé parce que ces idées-là existaient chez les Chinois bien avant Jésus-Christ. Alors que les surréalistes arrivent quand même beaucoup plus tard. Et maintenant, nous allons dans une histoire turque rédigée par Praline Guépara, une très grande conteuse, dans le recueil « Contes pour jeunes filles intrépides ». Et c'est un amour de cheval. Vous êtes prêts, chers auditeurs, chères auditrices, bien enfoncés dans votre siège? Donc, il y avait autrefois un juge qui avait 3 filles. Il avait aussi un cheval auquel il tenait plus que tout au monde, et qui se nourrissait de raisins secs et de noisettes. Or, un jour, le cheval refusa toutes les friandises. Il ne mangeait plus rien. Le juge, inquiet de voir maigrir son cheval, s'affaiblir, finit par demander conseil à un ami. Et celui-ci osa lui dire « je crois que ton cheval est amoureux. » Le juge va trouver son cher cheval et lui demande « Mon cher cheval, es-tu amoureux ?»«
Oui. »
« Et de qui es-tu amoureux ?»«
D'une jeune fille. »
« Et quelle est cette jeune fille ?»«
C'est à Benjamin. Elle a ravi mon cœur. »
Le juge va trouver sa fille et lui transmet la demande du cheval. Elle accepte de l'épouser. Et les noces sont célébrées. et avant qu'elle ne soit terminée, les noces, les sarcasmes et les moqueries fusent de tous côtés. Quand la jeune fille se retrouve seule avec le cheval pour la nuit de noces, elle le voit s'ébrouer, trembler, une poussière, une fumée se dégage de son corps et peu à peu, quand la fumée se dissipe, ce n'est plus un cheval qu'elle a en face d'elle, mais un jeune homme, le plus avenant et le plus tendre du monde. Il la prend dans ses bras d'homme, la couvre de baisers doux. Leur nuit de noces est un émerveillement pour les deux amoureux. Le lendemain matin, elle se prépare à aller au bain public avec ses sœurs. Son époux la met en garde. Si jamais tes sœurs et leurs amis se moquent de toi et te ridiculisent parce que tu as épousé un cheval, surtout, surtout, ne leur révèle pas que je suis un homme à certaines heures. Sinon, je disparaîtrai et tu ne pourras plus me retrouver. Elle promet et part rejoindre ses sœurs. Les jeunes filles ne tarissent pas de sarcasmes, de moqueries et de fous rires. À la fin, la pauvre finit par craquer. « Venez voir par vous-même si c'est un cheval que j'ai épousé. Mon homme est beau comme un soleil et sa peau est douce comme la soie. » Au même instant, les voisins voient un cheval surgir dans la rue et partir au galop. Elle rentre chez elle pour raconter à son époux ce qu'elle vient de faire, mais il a disparu. Elle cherche partout dans la maison une trace, un signe, et elle finit par trouver dans l'âtre une lettre qui lui est adressée. Tu as trahi mon secret. Je suis forcée de partir. Si tu tiens à moi, tu dois chercher la maison du prince Tahir pour me retrouver. Elle lit, relit la lettre, encore et encore, et se précipite auprès de son père pour lui demander de l'aider. Le juge lui donne une armure et un cheval et la fait escorter par ses soldats jusqu'aux limites du pays. Elle chevauche longtemps avant d'arriver dans une immense plaine où se dresse une maison en argent et une maison en or. Une jeune fille sort de la maison d'argent tenant à la main un gobelet en argent. Elle se dirige vers une fontaine pour le remplir, la jeune fille au gobelet d'argent. Et quand la fille du juge la voit, elle l'appelle. « Hé, fille de la maison en argent, fille au gobelet d'argent, sais-tu où se trouve la maison du prince Tahir ?» Et la jeune fille, au gobelet d'argent, lui répond « La maison d'or est celle que tu cherches. » La fille du juge repart au galop vers la maison d'or. Elle voit une jeune fille sortir de la maison d'or et se diriger vers une autre fontaine, un gobelet d'or à la main. Elle l'appelle « Fille de la maison d'or, fille au gobelet d'or, où est le prince ?» Tahir, la maison du prince Tahir. Et le prince Tahir habite cette maison. Il vient de manger. Et je vais chercher de l'eau pour qu'il se lave les mains. La fille du juge demande à boire dans le gobelet. Elle porte le gobelet à sa bouche, boit, et il laisse tomber sa bague. La jeune fille au gobelet d'or remplit le gobelet d'or à nouveau d'eau et va le donner au jeune homme. Il se lave les mains et voit la bague. Et il demande à la jeune servante, « Nous avons de la visite ?»« Oui, une jeune fille attend dehors près de la fontaine. Amène-la ici. » La jeune fille sort de nouveau, invite la fille du juge à entrer Le prince Tahir se précipite pour l'accueillir et la serre dans ses bras avant de la prévenir. « Ma mère est une ogresse et si elle te voit, elle te mangera !» Il a à peine fini sa phrase qu'il entend les pas de l'ogresse. Il cache sa bien-aimée dans une armoire qu'il referme. L'ogresse arrive.
Ça sent la chair fraîche.
Mais non, mère, comment veux-tu qu'un humain puisse arriver jusqu'ici? Si quelqu'un était là, toi ou moi l'aurions déjà dévoré. Il n'y a personne.
Tahir et l'ogresse poursuivent une conversation sans fin. Ils parlent de ceci, ils parlent de cela.
Puis le jeune homme dit soudain: « Imaginons qu'il y ait une jeune femme dans cette armoire. Tu me la donnerais ?»«
Bien sûr, mon fils, je te la donnerai à manger. »
Tahir ouvre la porte et invite la fille du juge à en sortir.
L'ogresse fait contre mauvaise fortune bon cœur pour ne pas contrarier son fils.
Le lendemain matin, l'ogresse appelle la jeune femme.
« Prends ce panier d'oignons, épluche tous les oignons sans les éplucher !»
La jeune femme ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle réfléchit longtemps, puis elle va trouver Tahir pour lui demander conseil.
« Mais ma chérie, il te suffit d'éplucher chaque oignon à moitié et de laisser l'autre moitié avec la plure. »
Le soir, l'ogresse revient.
« As-tu épluché les oignons, comme je te l'ai demandé ?»«
Oui, oui, je les ai épluchés sans les éplucher. »
L'ogresse regarde les oignons et hurle. « Ah, c'est mon fils qui t'a aidé !»
Le matin suivant, l'ogresse pose devant la jeune femme une énorme bassine de lin.
« Lave ce lin sans le laver !»
La jeune femme va retrouver Tahir pour lui demander ce qu'elle doit faire.
Eh bien, lave une partie, laisse une partie telle qu'elle et lave la troisième partie à moitié.
Elle fait comme son époux le lui a conseillé. Le soir, l'ogresse arrive.
« As-tu lavé le lin sans le laver comme je te l'ai demandé ?»
Oui, oui, j'ai lavé une partie, je n'ai pas lavé une autre partie, et j'ai lavé le reste à moitié.
L'ogresse m'a Tahir l'a aidé. Puis elle dit, va chez ma sœur, elle a un tambour et un fifre, apporte-les ici.
Quand elle va demander à Tahir comment faire, il lui donne une bague.
Ma chérie, ma mère t'envoie dans la maison des démons.
Ils t'accueilleront à bras ouverts. Mais quand ils te laisseront toute seule, pose cette bague sur la table, prends le tambour et le fifre et pars en courant le plus vite possible.
La jeune femme prend la bague et part en direction de la maison des démons.
Quand elle arrive chez eux, ils l'accueillent, lui servent à manger avant de la laisser toute seule. Et vous savez pourquoi, chers auditeurs, ils la laissent toute seule? Eh bien, c'est pour aller s'aiguiser leurs dents. Elle pose la bague au milieu de la table, saisit le tambour et le fifre et part en courant le plus vite qu'elle peut. Les démons aiguisent encore leurs dents à l'autre bout de la maison. Ils lui crient de loin « Que fais-tu ?» Et ce n'est pas elle qui répond, mais c'est la bague magique posée sur la table qui répond pour elle. « Je mange !»
Les démons peuvent continuer tranquillement à acérer leurs dents et un moment plus tard, ils reviennent prêts à la dévorer. Mais où est-elle? Elle a disparu. Pendant qu'il la cherche dans tous les coins de la maison, elle arrive chez l'ogresse et dépose devant elle le tambour et le fifre. L'ogresse bout de rage de l'avoir indemne. Tahir dort depuis un moment déjà. L'ogresse ordonne à sa servante d'aller s'allonger à ses côtés. Elle appelle la fille du juge. « Tiens bien ces deux chandelles et veille debout devant la porte de la chambre de Tahir. Si jamais tu oses entrer dans la chambre de Tahir ou s'il te prend de crier, je te dévore immédiatement. » La fille du juge, la femme de Tahir, prend les chandelles et n'ose plus bouger. Le prince Tahir, eh oui, il dort comme un bienheureux, certain d'avoir à ses côtés sa bien-aimée. Et de l'autre côté de la porte de la chambre, les chandelles fondent et la flamme brûle bientôt les doigts. Elle n'y tient plus, elle crie « je brûle » et Tahir dort à poing fermé. Ses cris réveillent le jeune homme. Il chasse la jeune fille qui dort à ses côtés et court vers sa femme. Il lui arrache les chandelles des mains, les jette par terre, prend la main de sa bien-aimée et l'entraîne et ils partent tous deux dans un triple galop à pied. Quand l'ogresse voit les chandelles par terre, elle comprend que les deux époux se sont échappés. Elle enfourche sa cruche et s'élance à leur poursuite. Loin devant eux, les deux jeunes gens courent encore la main dans la main, courent et courent et courent. Tahir dit à son épouse, « Regarde par-dessus ton épaule. » Elle regarde et dit, oh, « Je vois ta mère qui nous poursuit et qui se rapproche. » Tahir s'arrête aussitôt. D'un souffle, il la transforme en fontaine et devient lui-même un gobelet. L'ogresse arrive. Elle boit de l'eau dans le gobelet et rentre chez elle, dans sa maison en or. Sa servante lui demande « Qu'as-tu vu ?»«
J'ai juste vu une fontaine et un gobelet. J'ai bu de l'eau dans le gobelet et je suis rentrée. »
« Pauvre mère, le gobelet et la fontaine, c'était ton fils et ta bru !»
L'ogresse repart aussitôt à leur poursuite, jugée sur sa cruche, plus décidée que jamais à les rattraper. Loin devant, les deux amoureux courent encore. Quand la jeune femme regarde par-dessus son épaule, elle voit de nouveau l'ogresse arriver. « Ta mère est derrière nous !» Tahir s'arrête aussitôt. D'un souffle, il la transforme en prairie et il devient jardinier. Et le jardinier se met à parler à haute voix. « Du maïs ou des haricots? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir semer? Du maïs ou des haricots ?» L'ogresse l'appelle.
« Jardinier, as-tu vu passer un jeune homme et une jeune femme par ici ?»«
Du maïs ?» Ou des haricots? Du maïs? Ou des haricots?
L'ogresse rentre chez elle. La servante l'attend. Qu'as-tu vu?
Une prairie et un jardinier.
Pauvre mère, la prairie, c'était elle et le jardinier, c'était Tahir. L'ogresse repart une fois de plus à leur poursuite. Loin devant, les deux amoureux courent comme des fous.
La jeune femme regarde derrière elle.
Oh, « Tahir, la voici de nouveau !»
Il s'arrête. Et d'un souffle, elle devient une jeune mariée avec tous ses voiles et Tahir à l'allure d'un curé.
« Mon père !» demande l'ogresse. « As-tu vu par ici un couple de jeunes gens en train de courir ?»«
J'officie ici depuis plus de 15 ans et je n'ai vu passer aucun couple. »
L'ogresse dépitée rentre chez elle et quand la servante lui apprend que le curé était son fils et la mariée son épouse, elle repart aussitôt la rage au ventre. La jeune femme la voit arriver de loin. Les amoureux s'arrêtent et les voici aussitôt transformés en un seul souffle, elle en arbre et lui en serpent lové dans ses branches.
L'ogresse arrive et crie. Tu es Tahir, je t'ai reconnu, tu es Tahir. Elle ramasse une grosse pierre et la jette violemment sur le reptile. Dans une colère folle, Tahir reprend sa forme humaine et fonce sur l'ogresse qu'il tue d'un coup. Les deux amoureux reprennent leur route et rentrent au pays de la jeune femme qui retrouve avec bonheur sa famille. On raconte qu'ils y ont vécu heureux jusqu'à la fin de leur jour.
Sırada sırada estiler emine, suyu da baştan kestiler. Uzun Ahmet'in evini baygır emine, saat üçte bastılar. Uzun Ahmet'in evini baygır emine, saat üçte.
Chères auditrices et chers auditeurs, voici l'histoire est terminée. J'espère que vous l'avez savourée. Et je vous souhaite à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.
Sırada sıra ardıçlar emine, dar geliyor babıçlar. Ben Emine'yi kaldır Cem Baygın Emine'm, yardım edin sadıçlar. Ben Emine'yi kaldır Cem Baygın Emine'm, yardım edin sadıçlar. Seçün yeşil Emine, çayda balık oynaşır. Gözellerin içinde baygın Emine, nasıl canlar eyleşir. Gözellerin içinde baygın Emine, nasıl canlar eyleşir. Saçları Emine, Emine'nin saçları. Kurulu yaylara benzeyor baygın Emine, Halil İbrahim'in kaşları. Kurulu yaylara benzeyor baygın Emine, Halil İbrahim'in kaşları.